Bien. Eh bien, bonjour. Nous allons donc démarrer cette rencontre autour du thème suivant. Donc, j'essaie de dire l'intitulé exact qui nous est donné. Il s'agit de « Mon ami le robot » avec quatre invités. Alors, il y a eu un tout petit changement dans les invités puisque, au même moment, vous constaterez sur le... sur votre programme que le lauréat du prix européen qui a été remis hier soir doit parler de l'autre côté, et il se trouve qu'il s'agit de deux lauréats, hein, Hugo Bellagamba et Vincent Gessler, et Vincent Gessler qui devait être parmi nous se retrouve donc là-bas. Parfois on aurait presque préféré qu'il perde, mais bon, je peux pas dire ça quand même. Alors, nous avons donc quatre personnes pour cette discussion. Donc, Fabien Rimbaud,
bonjour,
qui est le président de l'association Caliban, qui est une association de robotique, de fabrication de robots humanoïdes et d'observation du monde robotique. Et vous êtes basé dans quelle ville ?
Alors, le siège de notre association est à Paris, mais on a des membres un petit peu partout en France, et on commence à en avoir aussi en Québec, enfin au Québec et en Belgique.
Voilà. Très bien. Frédéric Boidron, qui est informaticien, qui est également le rédacteur en chef de la revue Planète Robot, et qui ouvre Place du Commerce, pardon, ici à Nantes, un magasin dédié aux robots. Et ce sont les petits robots qu'on voit se balader dans l'allée depuis que nous sommes arrivés. Nous avons également avec nous, pour le côté littéraire, Gérard Klein, qu'on ne présente plus, qui est... un analyste très important, un éditeur très important, enfin, qui est une des personnes sans qui la science-fiction française ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, qui a entre autres développé toute une réflexion sur ces thématiques-là, qu'on peut trouver ici ou là dans divers articles. On peut faire référence à la préface d'Histoire de robots qui date de 1985, si ma mémoire est bonne. Enfin, j'ai vérifié juste avant de venir, faut pas exagérer non plus.
Je crois même que c'est plus ancien, ça doit être une réédition.
Ah, je me suis fait avoir. Voilà à quoi ça sert de faire le malin. Voilà à quoi ça mène plutôt. Et donc Ian MacDonald, qui est un écrivain bien connu, qui a un destin d'écrivain un petit peu amusant dans notre pays, puisqu'il y a eu Desolation Road, une longue éclipse dans les traductions d'une vingtaine d'années, et puis il est revenu en force avec ces dernières années, avec Roi du matin, Reine du jour principalement, et cette année également qui a été publiée là à la rentrée en septembre, un roman remarquable qui s'intitule Le fleuve des dieux. Ouf, je me suis pas trompé, dans lequel apparaissent effectivement des robots. Donc moi je suis absolument ravi de pouvoir animer une telle table ronde. Puisque le robot fait partie de ces membres du bestiaire de la science-fiction qui n'ont pas qu'une existence imaginaire. Donc la première idée, ce serait de faire un petit point sur c'est quoi la robotique et où est-ce qu'on en est exactement aujourd'hui. Et on passera aussi la parole, bien sûr, à Gérard Klein et à Ian MacDonald, qui peuvent intervenir à tout moment. Mais on va commencer par lancer peut-être Frédéric Boidron en tant que scientifique de la bande, ou Fabien Rimbaud, lequel voudra prendre la parole en premier. Oh, ben, ils se font des politesses, c'est bien. Bon, ben, c'est moi qui tranche, donc Frédéric.
Donc le robot, c'est un terme en fait un peu généraliste. Personne ne percevra en fait le robot de la même façon. Moi, ma vision à moi du robot, c'est tout objet capable d'avoir une action programmée ou autonome. Ça peut même être à la limite les pantins un peu. Pardon. Donc certains pantins un peu automatisés, pour moi c'est déjà de la robotique. Je sais que d'autres auront des visions complètement différentes, où il faut vraiment que ce soit l'être humanoïde doué d'intelligence. C'est une notion très vague, de toute façon il n'y a pas de notion bien réelle sur le robot.
Un petit mot, Fabien ?
Alors, ben justement, quand Frédéric parlait de personnes qui ont une vision différente, déjà, c'est un peu le cas au sein de notre association. C'est-à-dire qu'on est une asso qui s'occupe de robotique, mais de robotique dans le sens qu'on considère, nous, noble, le sens noble du terme, à savoir les machines qui ont été imaginées, inventées par des auteurs comme Asimov, Clark, ce genre de personnes, à savoir un robot, alors pas nécessairement humanoïde, mais avec une intelligence artificielle qu'on qualifie dans les laboratoires de type forte. Les machines dont parle Frédéric, qu'on désigne à mon sens de façon erronée sous le terme de robots, sont pour moi des automates. C'est au final de superbes jouets et pour ceux qui sont utiles, c'est de l'électroménager. Donc nous, ce qu'on s'attache au sein de notre association, c'est à permettre à faire connaître la robotique qui nous semble noble, celle qui fait généralement rêver les gens dans les romans de science-fiction et qui commence à apparaître dans les laboratoires. Donc, ces intelligences artificielles, comme juste pour vous présenter un petit peu ce qui se passe en labo, il en existe deux types. Il y a les intelligences artificielles dites faibles et les intelligences artificielles dites fortes. Les intelligences artificielles faibles, IA faibles, généralement, c'est des systèmes qui sont capables d'apprendre, d'évoluer et d'élaborer des stratégies en réponse à un problème donné, mais dans un cadre qui a été défini par son équipe de développement. Là où ça devient intéressant, c'est intelligence artificielle forte. C'est rempli exactement les mêmes contraintes, donc un système capable d'apprentissage, d'élaborer des stratégies à un problème, sauf que ça peut être dans un cadre complètement inédit. Autrement dit, le robot est capable d'analyser, synthétiser et modéliser son environnement et à partir de ses acquis, élaborer des stratégies inédites qui n'avaient pas du tout été prévues par les développeurs. Donc nous, au sein de notre assos, quand on parle de robotique, c'est à cela qu'on s'intéresse. Et donc on se positionne à la fois en tant qu'acteur, c'est-à-dire qu'au sein de l'association, on a nos propres travaux, mais aussi en tant qu'observateur, c'est-à-dire qu'on discute pas mal avec des patrons, enfin des dirigeants d'entreprises robotiques, des chercheurs dans les laboratoires, pour savoir un petit peu où se positionnent les choses, et notamment s'en faire l'écho auprès de vous, et notamment lors de meetings, faire connaître ce genre de choses, montrer que c'est toujours de la science-fiction, mais qu'on sait aujourd'hui que ça va être une réalité très bientôt.
Gérard Klein va intervenir.
Alors là-dessus, je dois dire que je vais apporter la contradiction parce que je suis extrêmement partagé sur ce thème. D'une part, comme auteur et écrivain de science-fiction, les robots tiennent une place immense. Il y a des centaines, même des milliers d'histoires de robots par lesquelles nous avions, il y a presque 40 ans, choisi celle des histoires de robots. Donc, La place dans la littérature des robots et de l'intelligence artificielle est considérable. À l'inverse, j'ai beaucoup étudié la question de l'intelligence artificielle et fréquenté quelques-uns de ses experts, en particulier pour un projet de livre. Et s'il y a une chose dont je suis profondément convaincu, c'est que l'intelligence artificielle au sens fort n'interviendra probablement jamais et qu'en tout cas nous n'avons pas le début du commencement, de l'aube d'une réalisation dans ce domaine. Alors j'entends bien qu'il y a des machines, des robots, des programmes qui disposent d'une certaine autonomie. Ça s'étend d'ailleurs au domaine de l'art, où mes amis du Cube, enfin les Osiosmanov, font des choses tout à fait remarquables. Il est tout à fait vrai que certaines machines sont capables de se déplacer, par exemple, en milieu inconnu et d'avoir des comportements relativement imprévisibles, mais enfin imprévus plutôt qu'imprévisibles, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Cela étant, nous ne savons pas du tout ce que c'est que l'intelligence humaine et même animale, et nous sommes absolument incapables de la simuler, sauf dans des conditions extraordinairement restrictives. Donc je ne crois pas à l'intelligence artificielle. Au sens du programme initial dans les années 50, il y a 20 ans, parmi les trois objectifs, disons, que la science-fiction proposait à l'humanité, l'intelligence artificielle, le voyage interstellaire, le voyage dans le temps, j'aurais classé ces objectifs dans cet ordre, comme dans le cas de leur apparition vraisemblable. Aujourd'hui, j'ai complètement inversé les priorités après avoir beaucoup étudié la question et d'ailleurs participé à quelques tables rondes. Je crois que le voyage interstellaire est envisageable à plus ou moins longue échéance. Le voyage dans le temps aussi, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus éloigné.
Alors, on va peut-être passer la parole à Ian MacDonald. Ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'un écrivain. Moi, je me suis fait une réflexion ces derniers temps. J'ai eu l'impression que le robot n'apparaissait plus beaucoup ces dernières années dans la littérature de science-fiction. Du moins, il n'y a plus dans la littérature eu ces dernières courtes années de grands romans avec des robots. Bon, du coup, maintenant, il y a Cygnis de Vincent Gessler, évidemment. Il est omniprésent au cinéma, à la télévision et même en bande dessinée. Il y a beaucoup, beaucoup de robots, très peu en littérature et assez peu dans l'œuvre, traduite en français du moins, de Ian MacDonald. C'est un personnage qui pose problème, le robot, l'intelligence artificielle. Déjà, on va se concentrer sur le personnage du robot et ensuite, on s'interrogera sur l'intelligence artificielle qui est là plus fréquente dans la littérature.
Je pense que la science-fiction a perdu le robot. C'est comme a dit Gérard, en fait. Il y a des milliers, sinon voire des millions d'histoires de science-fiction avec des robots humanoïdes. Et après, je pense, avec l'aube du cyberpunk dans les années 80, c'est quelque chose qui a disparu de la fiction. Donc l'intelligence artificielle, donc c'est la boîte avec un cerveau, des choses comme ça. Donc là, l'intelligence artificielle sans corps, c'est une sorte de sigil de la machine à penser de l'Ouest. Et donc, on est passé du robot à l'ordinateur. C'est l'ordinateur, en fait. Là, c'est quelque chose qu'on peut avoir, on peut le transporter dans notre poche. C'était quelque chose qui était disponible. Et les robots, après, les robots sont partis vers l'Est. Et il y a la tradition japonaise du robot géant contre Godzilla. Donc, on va détruire Tokyo avec une seule prise parce qu'on n'a plus de budget. Donc, c'était ça la métaphore dominante, en fait. Donc, le robot géant ou le robot avec pilote ou Evangelios, des choses comme ça, la mecque du robot, en quelque sorte, qu'on voyait. Et récemment, ce n'est que récemment, avec cette pénétration du mode japonais ici chez nous. Là, les robots qu'on voit aujourd'hui sont des robots qui sont basés sur la vision japonaise du robot. Donc, c'est traduit par la culture japonaise en quelque sorte. Donc, le robot est revenu après avoir eu un petit séjour sympa au Japon. Et maintenant, il y a de nouvelles choses à dire. Et on a, nous, une nouvelle façon de voir. Donc, ce sont des choses qu'on peut avoir. Donc, on peut avoir le robot qui est l'aspirateur, en fait. Le petit robot dinosaure qui va faire plaf plaf avec la patte, quoi, qui donne la patte si on le chatouille. Et donc, là, on peut être propriétaire de ça, en quelque sorte. Ben voilà, c'est tout. Donc, les robots sont partis au Japon, maintenant ils sont revenus modifiés.
Dans la science-fiction, parce que c'était d'une symbolique extrêmement riche. Le robot, surtout humanoïde, et on peut faire un distinguo entre robot mécanique et robot biologique, le robot biologique, c'est nous, sans être nous. Et en termes de métaphore, en termes de symbolique, il y a eu des choses très très fortes qui ont été écrites. Je pense à Philip Dick, évidemment, et je pense même à la fin de l'adaptation cinématographique Blade Runner, avec cette scène de la mort du robot, où je l'ai vu quand j'étais ado, l'année où il est sorti, où je savais pas si je devais, c'était l'émotion la plus totale. On savait pas si on se devait se réjouir de la mort de ce qui se révèle être un tueur, ou si on est juste bouleversé par le drame de cet homme qui meurt. Donc.
Oui, en ce qui concerne Blade Runner, et puis le Philip K. Dick, je crois qu'il y a une distinction très importante à apporter, c'est qu'à proprement parler, les personnages de Blade Runner et d'où Android Stream of Electric Sheep ne sont pas des robots. Ce sont des réplicants, pour employer le terme initial, c'est-à-dire en quelque sorte des clones d'humains qui ont été modifiés, qui ont été fabriqués. Je crois que c'est une distinction très fondamentale. Alors, il y a des raisons éthiques qui s'opposeraient évidemment à ce genre d'intervention, mais ça n'a rien à voir avec la fabrication d'un robot entre guillemets, intelligent qui a été fréquemment utilisé en science-fiction. Alors sur le point de la raison pour laquelle le robot classique peut-être pratiquement disparu de la littérature de science-fiction, pour les échanges que j'ai pu avoir avec des auteurs, beaucoup se sont rendus compte de l'extraordinaire difficulté, du très grand éloignement de l'aboutissement éventuel du programme, et ont donc renoncé. En même temps, la scène s'est déplacée du côté des gens comme Kurzweil, qui a été d'ailleurs un grand chercheur, mais qui, à mon avis, est un illuminé total aujourd'hui, qui annonce que dans 20 ans ou 30 ans, on va atteindre la singularité de mon auteur et ami Werner Vinge, parce qu'il y aura une puissance de calcul qui égalera ou déplacera celle du cerveau humain. Alors là, il faut tout de suite dire une chose. En admettant qu'il y ait en effet plus de microprocesseurs qu'il n'y a de cellules dans un cerveau humain, ça ne suffit pas du tout. Tout le problème, c'est celui de leur organisation. Il y a, pour autant qu'on sache, chez un débile profond, autant de cellules du cerveau que chez une super intelligence, chez quelqu'un de supérieurement intelligent. Malheureusement, ils ne sont pas organisés de la même manière et on ne sait ni comment ni pourquoi.
Voilà, que peuvent en dire
Alors, déjà, en fait, ce que je voudrais, c'est. Je comprends votre point de vue. Ce que je voudrais, c'est en fait juste rebondir, c'est que déjà, je suis frappé par ce pessimisme en fait par rapport à cette discipline. Ensuite, concernant la problématique de la puissance de calcul, je serais tenté de dire que finalement la puissance de calcul est un faux problème, puisque justement la problématique, comme nous l'expliquait Gérard Klein, c'est par rapport à la complexité. Et en fait la robotique, et plus particulièrement l'intelligence artificielle, parce que c'est l'évidence, la robotique et l'intelligence artificielle sont deux disciplines distinctes, où on peut considérer que le robot humanoïde, dans le sens iRobot comme le film, serait un peu la quintessence de l'union de ces deux disciplines. Mais concernant l'intelligence artificielle, elle est particulièrement passionnante parce qu'elle permet à l'être humain d'investiguer sur le troisième infini, à savoir jusqu'à présent on est quand même plutôt pas mal calé au niveau de l'infiniment petit et l'infiniment grand. La robotique cognitive, l'intelligence artificielle, nous permet d'appréhender le troisième infini, à savoir l'infiniment complexe. Et effectivement, l'esprit humain peut sembler comme étant a priori une des choses les plus complexes à analyser et à comprendre. Ceci dit, effectivement, ce n'est pas quelque chose l'IA forte, donc une IA forte dans noble, à savoir capable, pas de rivaliser avec nous, mais de coopérer avec nous en bonne intelligence, c'est-à-dire capable de soutenir une discussion, d'avoir ses propres idées et opinions. Effectivement, ce n'est pas pour maintenant, ce n'est pas pour dans 2 ans, ce n'est pas pour dans 5 ans. Tout à l'heure, je ne sais plus...
Ni pour dans 100 ans.
Eh bien, justement, c'est là que je ne suis pas d'accord. Après, il y a d'autres personnes aussi qui ont ce point de vue. De toute façon, c'est un débat qui est très agité, qui agite beaucoup la communauté scientifique. C'est-à-dire que généralement, il y a beaucoup de personnes en fait qui sont prudentes par rapport à ça, par rapport aux avancées qui peuvent être faites par rapport à la robotique, déjà parce qu'elles veulent pas s'avancer des masses, et aussi pour des histoires de budget. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des laboratoires et qui finalement ont des contraintes à tenir et des objectifs à atteindre. Et comme ce sont des personnes intelligentes, ils n'en promettent pas trop pour être sûr de pouvoir les atteindre et donc obtenir les budgets pour les travaux suivants. Ceci dit, sans considérer la puissance de calcul, l'espace de stockage et le problème fondamental, ce qui a notre sens au sein de l'association qu'on a identifié en tant que tel, c'est le problème de l'indexation des données, c'est-à-dire pouvoir retrouver les données rapidement. Parce que la robotique, en fait, c'est l'intelligence artificielle, on va dire, que ça se base sur une multitude, une infinité de données partielles, et non pas une grosse data ou un gros fichier qui se retrouve facilement. Donc le frein qu'on a identifié, majeur, c'est l'indexation des données. Là, c'est un réel problème. Après, au niveau de la complexité, on va dire que commence à y avoir des modèles dérivés de la physique qui permettent de commencer à appréhender l'infiniment complexe. Je pense que ça va être une discipline scientifique qui va exploser au cours du XXIe siècle, tout comme la physique quantique a été la science reine du XXe siècle. Il y a de fortes chances que l'analyse de l'intelligence artificielle soit la discipline reine du XXIe siècle. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Je serais tenté de dire qu'en 1900, ils n'avaient pas les moyens non plus d'aller sur la Lune, et pourtant, ils l'ont fait 60 ans plus tard.
Là, je m'inscris totalement en faux. parce que en ce qui concerne le voyage vers la Lune, ils n'en avaient pas les moyens technologiques, mais ils en avaient d'une façon complète les moyens intellectuels de le calculer. Tsiolkovsky, dans les années 1890, le fameux russe, le montre dans plusieurs livres et il y décrit également des satellites artificiels en indiquant qu'ils permettront, il ne pense pas aux communications, la radio n'est pas encore, n'existe pas encore, mais l'observation de la Terre. Donc ça, nous sommes dans une situation complètement différente. En ce qui concerne la physique quantique, domaine que je connais un peu, c'est un peu la même chose, c'est pas sorti comme c'est pas... Les gens se sont pas dit on va inventer la physique quantique. Ils ont été confrontés à des problèmes d'observation qui n'étaient pas compatibles avec la physique classique. Et il s'est produit à ce moment-là, principalement dans les années 20, une véritable révolution intellectuelle. Ici, avec cette prétention insoutenable, celle de Minsky, que je n'ai pas rencontré, mais que j'ai publié comme auteur, dans les années 50, avec cette prétention insoutenable de l'intelligence artificielle, nous sommes en présence de quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas dans de l'observation de la nature, parce que j'ai une formation assez solide de psychologue, ce n'est pas de l'observation du cerveau humain que nous tirons rien, que nous tirons quelque chose, plutôt en dehors de quelques aspects neurologiques, enfin les systèmes neuronaux, bon, qui ne vont pas très loin, qui sont extraordinairement localisés. Bon, ce n'est pas de l'observation de la nature, de la rencontre d'une difficulté dans la nature, que nous tirons quoi que ce soit en ce qui concerne l'intelligence artificielle. C'est une prétention qui a été constituée dans les années 50 à des fins d'obtenir des budgets scientifiques. On a dit aux militaires, on va vous fabriquer des machines intelligentes qui feront la guerre à votre place. Et des milliards de dollars ont été littéralement gaspillés là-dessus. Et en France même, au CNRS, il y a un département important dont la seule objection qu'on m'a faite dans un débat il y a quelques années à ce propos, où je maintenais la position que je défends aujourd'hui, ça a été, mais enfin Gérard Klein, si on vous écoute, on va mettre 1000 personnes au chômage. C'est pas ce que j'appelle une objection scientifique.
Moi, je vais faire le candide, alors, du coup, maintenant, pour un petit peu nourrir différemment ce débat. Finalement, si on réfléchit bien, un robot, c'est un outil. Pourquoi lui demander plus ?
Absolument. Mais absolument, ça. Alors là, en ce qui concerne la possibilité de fabriquer des outils extrêmement efficaces à des fins bien définies, alors ça, je ne le discute pas une seconde. Le problème des machines, parce qu'il ne s'agit que de machines et des programmes, c'est qu'ils ne sont pas polyvalents. Et que le robot de la science-fiction, celui qui assiste l'homme, par exemple chez Asimov, mais chez bien d'autres auteurs, c'est qu'il est aussi polyvalent qu'un être humain. Et en fait, c'est l'esclave idéal.
Alors, vas-y. C'est juste au niveau...
Ian McDonald a quelque chose à dire, peut-être on va lui passer la parole.
C'est peut-être intéressant de voir que le robot d'Asimov a développé une société récente en fait de esclaves. Et donc peut-être c'est peut-être le robot américain à part le robot humanoïde de type américain. Donc là peut-être on parle d'une culture de l'esclave qui nous provient de la façon dont les Américains pensent peut-être. Bon. Pour moi je verrais donc des différents robots qui font différents types de choses et on a peut-être là un humanoïde qui attend que je lui demande de faire quelque chose, hein. Et donc pour moi je pense que d'un point de vue psychologique ça serait très mauvais parce que donc ça ferait de moi une mauvaise personne.
Quelque chose de très basique. Effectivement, un robot aspirateur, c'est déjà de la robotique. Effectivement, il a une intelligence artificielle, ce qui n'a absolument rien à voir avec celle décrite dans les romans de science-fiction. Mais justement, après, à la limite, qu'est-ce qu'on peut appeler l'intelligence artificielle ? Parce que ça peut être juste, effectivement, comment nettoyer au mieux une pièce, ou effectivement... est-ce que ça peut être simplement la conscience ? Est-ce qu'un jour le robot pourra avoir la conscience de lui-même ? Est-ce qu'il aura la conscience du monde et la conscience qu'il vit et qu'il a sa propre existence ? Après, il y a plusieurs débats là-dessus. Et c'est pareil, est-ce qu'on ne peut pas avoir une création d'intelligence artificielle à base d'une structure biologique ? Est-ce qu'on peut pas partir d'un cerveau entre guillemets, d'un cerveau ou d'éléments d'un cerveau animal ou humain et créer donc de l'intelligence artificielle à base de voilà, je sais pas, de là, je parle de clonage peut-être de voilà, juste d'éléments du cerveau. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de recréer cette interface d'une façon liée à la robot, à l'électronique? Est-ce qu'il n'y a pas un interfaçage possible entre les deux?
Mais là, du coup, je remets la balle du côté de l'imaginaire, pour être plus précis, en posant la question suivante: est-ce souhaitable de créer une intelligence artificielle au sens propre d'intelligence, au sens de la conscience?
Alors, à la limite, une intelligence artificielle en elle-même, est-ce qu'elle peut poser problème? Puisque une intelligence artificielle, déjà, elle peut être déjà très complexe. Elle nous dépasse. L'intelligence artificielle dépasse déjà l'humain sur certains domaines. Au jeu d'échecs, on a déjà parlé hier.
Non. Les programmes d'échecs, genre Deep Blue et tout ce qui a suivi, ne sont en aucune manière intelligents, d'une part. Ça, c'est une première chose très importante à dire. Ils ont une puissance de calcul qui leur permet d'explorer un très grand nombre de possibilités de jeux, mais ils n'ont aucune intelligence. D'autre part, et surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, derrière ces programmes, il y a une très vaste collectivité d'humains. Ça consiste à indexer, pour reprendre le terme de mon voisin de tout à l'heure, un très grand nombre de solutions qui ont été explorées par les grands joueurs du passé et par les joueurs qui fabriquent ces programmes. Mais il n'y a aucune intelligence dans les programmes de jeux d'échecs, ou bien dans ceux qu'on est en train d'essayer de développer parce que c'est plus compliqué pour le jeu de Go. Il n'y a aucune intelligence. Ou alors, il y a de l'intelligence, une table de multiplication. Il y a certainement de l'intelligence dans ceux qui ont produit les tables de multiplication et puis tout ce qui s'en est suivi, mais il n'y en a pas dans les programmes jeux d'échecs. Et si je réagis avec cette vigueur, c'est parce que je n'aime pas qu'on laisse dans le public s'instaurer un certain nombre d'idées fausses. Et la question de savoir s'il est souhaitable ou pas de créer une intelligence artificielle, et entre l'intelligence et la conscience il y a encore un vaste fossé, mais enfin on ne va pas explorer ça maintenant. La question qui est souhaitable ou pas, en réalité elle ne se pose pas, hein. Il y a des problèmes éthiques dans d'autres domaines, mais là elle ne se pose pas parce qu'il n'est pas question d'en fabriquer une.
Ouais, parce qu'à la limite il ne faut peut-être pas quand même y réfléchir pour le cas où il y a peut-être, parce que tel que je le vois, je pense que le débat quand même doit être lancé et c'est de voir justement le côté éthique qu'il peut y avoir derrière. Bon, il y a les fameuses trois lois asimoviennes, mais c'est un peu trop simpliste pour...
Les lois d'Asimov sont intéressantes. Enfin, j'ai écrit d'ailleurs à partir des lois d'Asimov une très brève histoire qui tient en trois lignes, donc je peux même pas vous la résumer ici, qui est là, bon, on insère dans un robot les trois lois d'Asimov, enfin, j'espère que vous les connaissez, je ne connaissais pas, ça a beaucoup d'importance, qui consiste à définir d'un point de vue légal plutôt qu'éthique ses relations avec les êtres humains. Alors on réveille un robot, le premier robot intelligent qu'on a réussi à fabriquer, et de façon à pouvoir obéir à ces trois lois, il pose une question entièrement logique: qu'est-ce que l'homme? Il n'a jamais reçu de réponse.
Moi, je voudrais rebondir un petit peu sur toutes les choses que j'ai entendues. C'est déjà que vous vous inscriviez en faux sur la problématique, effectivement, de considérer les jeux d'échecs comme de l'intelligence artificielle. Je suis complètement d'accord avec vous. Pour moi, c'est de la calculatrice. Ceci dit, il existe quand même des programmes et des approches d'intelligence artificielle complètement inédites qui, pour l'instant, ont des résultats médiocres, mais qui ont le mérite d'être prometteurs. Je pense par exemple à la robotique développementale, c'est qui est une approche de l'intelligence artificielle synthétiquement, hein, par le contact social, qu'en fait l'intelligence naît du contact social, qui est une discipline qui est assez, qui promet quand même des résultats. Est-ce que c'est la bonne piste? Reste à savoir.
De quel type de contact social s'agit-il? Le contact... société des robots?
Non, le contact avec autrui. Par exemple, j'ai eu une discussion vraiment très très intéressante. J'en suis ressorti assez ébloui d'une discussion avec Jean-Christophe Bailly, qui est assez connu pour ceux qui sont un petit peu dans le monde de la robotique, qui nous parlait d'un, donc qui est chercheur, mais qui est aussi PDG de la société Ghosteye, qui développe des logiciels pour robots. Et en discutant avec lui, il nous avait présenté donc un de ses projets, en fait, où c'était deux de ses logiciels d'intelligence artificielle qui ne connaissaient rien, mais qui étaient juste capables d'établir des différences, c'est-à-dire remarquer que par rapport à la situation normale, telle chose est différente. Et synthétiquement, il a réalisé quelque chose, je crois, qui est à la base du rêve de tous ceux qui veulent se lancer dans la robotique. C'est qu'il a pris deux de ses intelligences et en gros, il les a mis l'une face à l'autre et puis il les a laissées faire. Et ces machines ont commencé à échanger des informations entre elles jusqu'à créer leur propre langage. Un langage qui serait complètement incompréhensible pour nous, mais elles ont créé leur propre protocole de communication où, par exemple, elles ont été stimulées en leur montrant un carré rouge. Et elles ont commencé à échanger, en fait, et à se mettre d'accord sur la signification de ce que c'est qu'un triangle, qu'un rond, qu'un carré, que le bleu, le jaune, ce genre de choses, dans leur propre langue. À mon sens, avec ce genre de système, on peut d'ores et déjà commencer à parler, pas d'intelligence artificielle forte, mais il se passe quelque chose. C'est-à-dire que les machines ont juste été conçues pour observer et établir des liens de différence. Et à partir de là, elles ont élaboré, on va dire, leur propre société, certes très primitive, juste entre deux machines et avec un langage très de base, mais c'est quelque chose. Et là, en fait, c'est juste une expérience réalisée par un laboratoire français. C'est sans prendre en compte tout ce qui se passe à travers le monde et dans les différents laboratoires. Donc, déjà, cette machine-là, évidemment qu'elle se ferait éclater aux échecs par Deep Blue, mais on ne parle pas du tout du même type d'intelligence. Après, concernant l'utilité des machines, ce qu'il faut voir, c'est que si on part du principe que le robot est équipé d'une intelligence artificielle faible, ça sera de l'électroménager, donc il sera nécessairement utile. Après, qu'il soit capable de passer l'aspirateur ou ce genre de choses, à la rigueur, on s'en moque, c'est juste les performances qui sont en hausse ou pas. Concernant l'utilité de l'intelligence artificielle dite forte, et à plus forte raison, mais effectivement, on ne va pas lancer le débat là-dessus, sinon on y est encore demain, mais de la conscience artificielle, l'utilité, moi, elle me semble évidente. C'est déjà nous permettre de comprendre, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, une approche de l'infiniment complexe, mais aussi de comprendre de quelle façon un système inerte aboutit à la pensée. Et je pense très synthétiquement que c'est le genre de système avec lequel on pourra philosopher jusqu'à la nuit des temps. Parce qu'ils auront nécessairement, si tant est qu'ils existent un jour, vous voyez, je suis diplomate, si tant est qu'ils existent un jour, ils auront nécessairement une vision, une perception de l'univers et une approche de l'univers différente de la nôtre, et que finalement, ils seront peut-être les copains qu'on cherche partout. Certains le cherchent en Dieu, certains le cherchent dans les extraterrestres. Ça pourrait être potentiellement nos partenaires pour ne plus être seuls.
On va éviter la crise cardiaque à Gérard.
Non, ma tension est très bonne, je vous rassure tout de suite là-dessus. Non, mais comme vous l'avez bien compris, ce n'est pas du tout la robotique, y compris extraordinairement sophistiquée, qui connaîtra des progrès considérables, qui me gêne ici. C'est l'emploi à tort et à travers du terme d'intelligence, qui en plus est extraordinairement mal défini, y compris pour les gens comme les psychologues, dont c'est le métier. Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans ce qu'a dit mon voisin, enfin mon quasi-voisin, c'est que ces deux programmes observaient. Alors, observer, ça implique un sujet qui observe. Il n'y a pas de sujet là. Et ça renvoie à une question extraordinairement importante, non seulement d'ailleurs pour les gens qui écrivent des programmes, mais par exemple pour la théorie de l'évolution, qui est la question de l'intentionnalité. Les êtres humains, et pas seulement les êtres humains, ont une intentionnalité, c'est-à-dire qu'ils ont des buts qui sont importants, qui sont comme celui de créer telle machine, ou qui ne sont pas importants, mais il y a une intentionnalité. Chez un chat, par exemple, moi j'aime beaucoup les chats, évidemment chez les chiens aussi, mais enfin vous me permettrez de préférer les chats, il y a une intentionnalité. Quand mon chat, qui s'appelle Aurore, veut être nourri, il vient se frotter à mes jambes, il me donne toutes sortes de signes d'affection, et puis il me conduit vers sa gamelle. C'est une intentionnalité. Et le problème de la théorie de l'évolution, c'est qu'on ne sait pas du tout quand cette capacité, l'intentionnalité, est apparue. En tout cas, ce qu'on sait de façon certaine, c'est que dans les machines, les programmes les plus évolués que vous voudrez, il n'y a aucune intentionnalité. On ne sait pas faire ça. Et on ne sait pas quand c'est apparu, comment c'est apparu, comment ça fonctionne, on ne peut pas le reproduire dans les machines.
Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer, en fait, comme certains robots qui ont été développés, en Angleterre, j'ai vu un robot donc, qui, pour pouvoir subsister, il est obligé donc, de se nourrir de limaces qu'il va trouver. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, reprendre votre sujet pour pouvoir survivre, l'intention de survivre, mais après, est-ce que pour survivre, est-ce qu'il ne va pas essayer justement de trouver ces fameuses limaces pour pouvoir recréer de l'énergie pour pouvoir survivre?
Non, il n'y a pas d'intentionnalité là. Il y a des programmes qui sont finalement extrêmement simples. Je suis suffisamment vieux pour avoir connu les renards électroniques d'Albert Ducrot et les machines de Gray, son nom m'échappe maintenant, qui a été un des pionniers de la robotique et de la robotique intelligente. Alors, Albert Ducrot, par exemple, avec ses renards électroniques, prétendait avoir reproduit le mécanisme du réflexe conditionné ou conditionnel, ça dépend des auteurs. Enfin, ça, bon. Mais en réalité, comme je l'ai démontré un peu à sa confusion, il avait simplement un condensateur. C'est-à-dire, quand un certain nombre de charges électriques s'étaient accumulées, son renard avait un comportement, mais qui n'était en aucune manière adapté ni rien. C'était un circuit très simple. Maintenant, on a des circuits beaucoup plus compliqués. Mais ça fonctionne fondamentalement exactement de la même manière. Il faut bien que le public comprenne qu'un ordinateur, c'est une grande série, c'est un très grand nombre d'interrupteurs qui sont allumés ou qui sont éteints. C'est oui ou c'est non, c'est un ou c'est zéro. Mais ça n'est, quelle que soit la complexité des programmes, même s'il y a des millions de lignes, ça n'est jamais que le fonctionnement d'une batterie gigantesque d'interrupteurs. Alors, pour autant que nous sachions, et là-dessus, nous ne savons pas grand-chose, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les cerveaux biologiques, et en particulier le cerveau humain. Alors, des gens extrêmement éminents comme Roger Penrose se sont lancés dans des hypothèses qui sont pour le moins audacieuses, quant à l'apparition de phénomènes quantiques dans les microtubules du cerveau. Bon, là, je ne m'engagerai pas là-dessus. Mais encore une fois, il faut bien voir qu'il n'y a pas plus de complexité dans le programme le plus gigantesque qui ait jamais été écrit que dans l'interrupteur avec lequel vous allumez et éteignez la lumière. Je prends la complexité dans un sens réducteur que mon voisin va certainement contre lequel il va certainement protester.
Alors, une courte protestation, comme ça on passera la parole au public. Et puis moi, j'adore cette idée du robot limaceau propulsé, je dois dire. C'est un truc.
Donc, contrairement justement à ce que vous dites, je vais pas vous contredire. C'est effectivement, je suis d'accord sur le principe. Après, vous parlez du fait que la machine soit capable, intentionnalité, voilà, ce terme-là. Moi, je vais juste dire, alors le mot est mal utilisé, mais finalement, c'est pas qu'il est mal utilisé, mais après, il peut être contredit. Imaginons donc que, par exemple, l'homme, avec son intelligence, et même le chat dont vous parliez, il y a un système de pulsion par derrière. La question que je vais poser, c'est la complexité qui est à l'origine de ces pulsions, auquel l'intelligence sert d'outil pour apporter une réponse, où est-ce qu'elle se situe? Si cette pulsion doit se résumer à un système d'une complexité infinie, à ce moment-là, on touche au divin. C'est-à-dire que du coup, on rentre dans le mystique, auquel cas, c'est un sujet sur lequel je ne m'engagerai pas. Soit c'est une complexité finie, auquel cas, il faut continuer les recherches et il faut continuer à travailler dessus. Et même si l'intentionnalité peut s'expliquer, c'est pas pour ça que ça lui enlève de sa superbe.
Non, mais dans votre discours, je serai très bref, mais dans votre discours, il y a un terme qui me gêne énormément, après celui d'intelligence, c'est celui d'infini. Parler de complexité infinie, ça n'a aucun sens. Il faut bien.
Je suis d'accord.
Bon, je suis familier de la théorie des ensembles de Cantor, etc., avec toutes les difficultés que ça représente. Donc, écartons le terme d'infini et dans la foulée, celui d'intelligence. Parlons de robotique élaborée, de tentatives pour donner à des machines des conduites adaptées. Enfin, parlons de tout ce qu'on voudra. Mais écartons ces termes parce que ces termes, moi j'ai fait des dizaines de tables rondes et de conférences là-dessus, ces termes induisent complètement le public en erreur. Et ça, autant j'aime la science-fiction et tout l'imaginaire qu'elle représente, autant moi je n'accepte pas l'imposture.
Bon, plutôt que d'imposture, on va parler de facilité liée à l'habitude.
Non, mais ce sont des facilités, il faut bien le rappeler, et je l'ai un peu vu en France, et c'est évident dans l'histoire du domaine aux États-Unis, qui sont liées à des demandes budgétaires. C'est-à-dire en présentant des buts inaccessibles à des gens dont l'inculture scientifique est monumentale, elle, et avoisine l'infini, je vous l'accepte, bon, on obtient des sous. Bon, mais pour faire des trucs qui mènent nulle part, et à la limite, ça relève du gaspillage. Cela dit, encore une fois, en robotique, il y a quelque chose qu'on n'a pas cité, qui est la robotique chirurgicale, qui est quelque chose qui se développe à vitesse grand V, et ça me paraît quelque chose de tout à fait fondamental. En robotique, on a fait et on va faire des progrès considérables, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence.
Parfait. Alors, on va passer à la question publique, là, c'est... pour ce débat passionné qui va sûrement se poursuivre sur le même ton, puisque j'attends avec impatience les questions du public. Donc il y a déjà le monsieur qui levait la main depuis un moment, peut-être, et puis on reviendra sur vous après, excusez-moi. Non plus. Non, vous, puis vous avez un joli chapeau, alors vous pourriez même vous lever pour que tout le monde voit.
Ça va être en fait plus des remarques rapides que de vraies questions. Mais par exemple, là, il y a eu un problème de vocabulaire qui s'est présenté pendant tout le débat. C'est la question, la notion d'intelligence artificielle, c'est une notion purement théorique. Ce qui a été appelé l'intelligence artificielle faible, ce serait peut-être mieux d'utiliser la notion de système expert, puisque c'est un terme qui existe et qui est utilisé dans l'industrie d'ailleurs.
Les systèmes experts sont un type d'intelligence artificielle faible. Ils ne sont pas l'ensemble des intelligences artificielles faibles. Ils sont une composante, c'est une solution d'IA faible parmi d'autres.
Voilà. J'ai travaillé sur des systèmes experts je ne les qualifierais pas d'intelligents au surplus en dehors de quelques domaines très étroits. Et encore, comme le diagnostic médical, c'est une approche qui est presque abandonnée parce qu'elle n'a pas du tout correspondu aux espoirs qui étaient légitimes à l'époque qu'on a fondés sur elle. Hein, il faut pas. Mais enfin, c'est des systèmes mécaniques. On essaye d'explorer les réactions, les choix intuitifs d'experts et pour voir si on peut les analyser, les systématiser, enfin, et en faire des programmes. Enfin, il ne faut pas non plus se raconter trop d'histoires là-dessus. J'ai été interrogé pendant des jours entiers par de prétendus spécialistes du domaine qui voulaient essayer de systématiser le choix des livres dans l'édition. Bon, ils ont prétendu par la suite à leur bailleur de fonds que j'avais gardé par devers moi des secrets essentiels, ce qui n'a aucun sens. Je publie comme éditeur des livres qui me plaisent et je ne sais pas toujours pourquoi.
Merci.
Alors attendez, donc, j'avais une autre chose que je voulais dire en réaction, en réponse à votre intervention tout à fait remarquable, c'est qu'il y a un terme qu'on n'a pas utilisé, que j'ai également pas mal étudié, et qui me paraît très important, c'est celui de la vie artificielle, c'est-à-dire la recherche ascendante. Ça consiste à essayer de faire une machine qui serait aussi intelligente qu'une fourmi, parce qu'il y a une intelligence, bon, enfin, c'est un autre problème, mais enfin, dans la fourmi, bon, pour l'instant, aucun ver de terre. Bon. Et puis à partir de là, faire grimper. Et les théoriciens de la... Bon, Francisco Varela s'est beaucoup penché là-dessus, malheureusement il est mort il y a déjà longtemps. Les théoriciens de la vie artificielle étaient, je crois, tous d'accord sur l'idée que si on arrive par cette voie ascendante, on ne saura pas comment ni pourquoi. Mais d'une certaine manière, ça reproduit ce qui s'est passé dans l'évolution. Notre intelligence, aussi médiocre qu'elle soit, est le produit d'au moins 500 millions d'années de travail.
Oui, la question de l'émergence, en fait. Et bon, bah, ça revient un petit peu à ma remarque suivante, parce que j'allais parler de l'auto-évolution et l'auto-complexification. On sait faire des systèmes qui évoluent d'eux-mêmes en fonction de ce qui leur arrive de l'extérieur. Après, si on ne met pas de limite au type d'évolution qu'ils peuvent avoir, ça n'a strictement aucune raison d'aboutir à quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on appelle de l'intelligence. En revanche, si on vise vraiment à faire quelque chose qu'on pourrait appeler de l'intelligence, et là, la question de la conscience de soi a été posée, mais en fait, de toute façon, déjà, on ne peut pas savoir si les autres personnes qu'il y a autour de nous ont une conscience d'eux-mêmes. On est obligé de le supposer parce que le solipsisme, c'est une philosophie stérile et finalement très chiante. Mais Mais le seul critère qu'on peut avoir, c'est le test de Turing.
On va passer la parole à Ian MacDonald qui veut intervenir.
Yeah, it's interesting you're talking about. Oui, c'est intéressant de parler de ceci, en fait. Je pense... Les neurosciences et les scientifiques de la conscience découvrent que nous avons surévalué grandement notre conscience et notre conscience, la conscience des autres créatures. De la même façon, Gérald est peut-être plus intelligent que mon chat, mais je ne vois pas d'intelligence dans mon chat lorsqu'il veut être nourri ou voilà. Donc, c'est la façon dont les chats domestiques ont évolué au cours des années, hein, c'est tout. Mais bon, en ce qui concerne ce que l'on pense actuellement dans les recherches actuelles, eh bien, on pense que notre conscience est illusoire, en fait, et qu'elle serait née... Bon, d'autres pourraient me soutenir, mais elle serait née, en fait... Bon, je vais revenir en arrière. Freud avait presque raison lorsqu'il a découpé, en fait, l'esprit en différents secteurs, l'ego, le super-ego et autres. Le moi, le super-moi, mais bon, en fait, c'est beaucoup plus complexe. Il y a différents secteurs dans le cerveau qui contrôlent, en fait, les différents ordres et aspects de notre vie et de notre connaissance. Et cette conscience que l'on peut partager, qui est partagée entre différents modules de notre cerveau. Mais bon, il y a un test psychologique très simple à faire et qui montre que notre conscience se retrouve derrière la réalité. Et je pense que nous avons notre conscience du monde, c'est une dixième de seconde après un stimuli. Mais nous avons conscience du passé, on ne vit vraiment jamais réellement dans le présent. Notre conscience peut-être est dans le présent et on réagit de cette façon. Donc notre conscience est beaucoup plus vague en fait, beaucoup plus illusoire et peut diviser les choses beaucoup plus que ce qu'on pense elle peut faire. Et probablement c'est la façon dont nous on considère la nature et nous on se considère comme étant l'évolution suprême. Nous sommes ici, là, nos cerveaux sont les structures les plus complexes de l'univers. Mais il y a aussi ce sentiment que après 500 millions d'années d'évolution, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'intelligence autour de nous. J'ai inclus tout le monde là, bien sûr. Et peut-être que l'intelligence n'est que quelque chose de très très court dans la vie biologique, qui pourrait avoir donc une intelligence par vague peut-être pour s'améliorer, puisque l'ADN ne se soucie pas de l'intelligence. Tout ce dont se soucie l'ADN, c'est de se compléter, de continuer, et donc pas de prise conscience de l'intelligence pour continuer l'espèce. Puis on verra ce qui se passe après.
De Ian MacDonald, parce qu'en fait on est déjà en dépassement de temps. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de retrouver nos amis pour les uns du côté de l'entrée autour des robots et des stands y afférents. Gérard et Ian, vous les retrouverez certainement en dédicace dans les minutes qui viennent, sinon encore un petit peu dans l'après-midi, je suppose. Je tiens également à remercier le traducteur pour son travail, puisqu'on a toujours besoin de lui. Et puis, je ne peux que vous inviter à rester pour écouter la rencontre avec Scott Westerfeld, qui sera animée, je crois, par Étienne Barillet. Ça devrait être très bien. Ensuite, il y a encore deux conférences cet après-midi. on parlera de manga et il y aura du cosplay avec beaucoup de déguisés. Voilà, et ben, je vous remercie beaucoup. Au revoir.